Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Podcast en série. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abus de pouvoir et des manipulations qui peuvent malheureusement exister dans nos vies personnelles et professionnelles. À partir des questions que vous avez posées, nous verrons comment les identifier et surtout comment s'en prémunir pour protéger son indépendance et son libre arbitre. Alors bien sûr, les relations ne sont jamais totalement parfaites, ils peuvent parfois mener des tensions, mais des comportements abusifs peuvent aussi se glisser dans nos interactions quotidiennes. Ensemble, nous allons essayer de mieux comprendre ces dynamiques ainsi que les stratégies à mettre en place pour éviter de tomber dans des relations dysfonctionnelles et toxiques.
Alexia nous demande quels sont les signes de manipulation dans une relation.
Alors déjà, de quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on aborde le sujet de la manipulation ? En fait, il s'agit d'un comportement que va adopter une personne qui vise un ou plusieurs objectifs bien précis en influençant les gens qui l'entourent. C'est quelqu'un qui va devenir contrôlant, qui va établir une relation qui est basé sur un déséquilibre, parce que la personne manipulatrice cherche à influencer et à dominer l'autre de manière trompeuse, et pour ça, elle va utiliser l'illusion, elle va utiliser le mensonge, le chantage, la culpabilité, et ainsi elle va exploiter la crédulité et les émotions de ses proies. Donc à partir de là, on voit bien que la relation, quelle qu'elle soit, eh bien, elle est malsaine. Après, la manipulation, eh bien, elle peut prendre différentes formes selon le type de relation, selon le type de personnalité du protagoniste et de sa victime, selon aussi la motivation qui mène à vouloir contrôler les autres. Et puis, qui dit manipulation dit aussi mensonge. Donc, on peut voir des promesses qui ne sont pas tenues, des oublis, des demi-vérités. Le manipulateur ou la manipulatrice, en fait, joue avec la charge émotionnelle de l'autre. C'est quelqu'un qui manie constamment le chaud et le froid, et puis c'est quelqu'un qui va devenir très contrôlant avec le temps, que ce soit au niveau des décisions, mais aussi des pensées les plus personnelles de la personne qui est ciblée. Ce qui veut dire que, en tant que victime, il y a au bout d'un assez long moment, on va dire, la perception que quelque chose semble, on va dire, bizarre dans cette relation, en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément très clair. Mais ça, les manipulateurs savent très bien retourner la situation à leur avantage en faisant ce que l'on appelle des inversions de responsabilité, en venant raconter que c'est vous qui posez problème dans la situation. L'individu va chercher constamment à miner votre confiance en vous, il va vous dévaloriser et c'est quelqu'un qui va être très fort pour jouer avec vos points faibles. Les vrais manipulateurs vont non seulement vous éloigner de vous-même, c'est-à-dire de qui vous êtes réellement, de votre véritable personnalité, mais va également vous isoler des autres. Donc le manipulateur, c'est quelqu'un qui va sans cesse vous déstabiliser, qui va sans cesse vous faire culpabiliser. Donc c'est quelqu'un qui va vous faire perdre vos repères et généralement, il va faire ça de manière assez subtile.
Question de Oscar. Quelles sont les techniques de base de la manipulation et de l'abus de pouvoir ?
Abus de pouvoir et manipulation, généralement, ça va de pair. On retrouve les mêmes techniques en fait que celles qui viennent d'être cité dans la première question, et on peut ajouter que l'individu qui souhaite abuser de son pouvoir pour soumettre les autres à son autorité va ajouter à toute cette panoplie l'intimidation et les menaces qui vont avec. Donc tout ça va prendre différentes formes à travers des reproches, des insultes. En fait, l'individu va instaurer un climat de crainte en faisant régner l'agressivité, voire même la colère constante. Donc il peut y avoir des menaces de représailles, des menaces de sanctions par rapport à la carrière et à la réputation de la victime. C'est quelqu'un qui peut même menacer physiquement les autres. La privation fait également partie des techniques qui sont utilisées dans l'abus de pouvoir, c'est-à-dire priver quelqu'un de son autonomie, hein, par exemple, que ce soit dans le cadre du travail ou dans l'espace personnel. La victime perd son indépendance dans ce qu'elle veut faire, elle perd son indépendance vis-à-vis des gens avec lesquels elle parle, des lieux où elle se rend, etc. Donc finalement, tout est soumis à autorisation. Alors cette privation, elle peut prendre différentes formes de manière à créer, je dirais, une sorte d'asymétrie dans la relation où il y a clairement un dominant et un dominé. Alors l'abus de pouvoir peut être direct, mais on voit aussi des attitudes et des techniques qui s'instaurent sur la durée de manière à miner progressivement la résistance de la future victime et à obtenir au final sa soumission totale. Dans l'abus de pouvoir, on constate qu'il y a une sorte de, je dirais, de dressage de l'autre. Un dressage qui se fait à travers le contrôle, à travers la punition, à travers la récompense, la privation, l'intimidation et aussi la culpabilisation. Et à la longue, eh bien, forcément, ça va, en tout cas, ça risque d'entraîner des effets négatifs sur la victime. Par exemple, ça peut entraîner un stress profond, ça peut entraîner de l'anxiété extrême qui vont mener à un moment donné ou à un autre vers une dépression. Donc tout ça va générer une baisse constante de la performance. Ça veut dire que ça va affecter les résultats et la productivité de la victime. L'abus de pouvoir peut provoquer des changements soudains dans l'humeur, également dans le comportement, avec bien évidemment une perte d'estime de soi-même. Et malgré tout cela, eh bien, il n'est pas rare de constater que la victime peut souffrir également d'une sorte de dépendance affective vis-à-vis de son agresseur, y compris quand ça se passe dans le cadre de l'entreprise, dans un cadre professionnel. Donc quand on en arrive à une telle extrémité relationnelle, eh bien là, il va falloir se faire aider pour sortir de cette spirale. Et pour ça, bien sûr, il faut prendre conscience de la situation, être bien entouré par les bonnes personnes pour surmonter l'emprise qui est liée à l'abus de pouvoir.
Question de Soline. Comment ne pas se laisser impressionner par l'autorité et le statut d'une personne toxique qui abuse de son pouvoir?
Eh bien, je dirais qu'il est absolument fondamental de bien se connaître soi-même. Vous devez impérativement faire ce travail sur vous afin de pouvoir délimiter ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas et ce qui ne l'est plus. Il faut aussi bien comprendre, et ça c'est très très important, je vais vraiment insister lourdement là-dessus, il faut vraiment comprendre que l'attitude et le comportement de l'individu qui utilise son abus de pouvoir sur vous, eh bien ça en dit bien plus long sur lui que sur votre personne. Je m'explique. Quelqu'un qui a besoin d'utiliser des techniques de soumission, d'intimidation, de menace, eh bien tout simplement c'est quelqu'un qui ne va pas bien, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même ni avec les autres et qui a besoin d'asseoir son autorité de manière malsaine et parfois même de manière brutale. Il faut bien se dire qu'une personne dont le leadership est naturel et authentique, eh bien cette personne n'a absolument pas besoin d'utiliser tous ses stratagèmes. C'est quelqu'un qui sait où il va avec les autres et qui a une estime suffisante et saine pour avancer dans la vie. Ensuite, tout ce que je vais vous dire là n'est pas facile à actionner. J'en ai tout à fait conscience. C'est pas facile à actionner si on n'a pas fait un vrai travail sur soi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce travail, de manière à pouvoir affronter le plus calmement possible ces types de personnalités qui finalement peuvent s'avérer très hostiles, hein, par rapport aux autres. Lorsque la personne vous intimide par des menaces directes ou même des menaces voilées. Ne répondez pas et n'exprimez rien au niveau de votre attitude. En fait, il faut rester neutre. Il s'agit là de ne pas entrer dans un jeu qui est totalement malsain. Donc, vous ne vous justifiez pas, vous ne répondez pas aux insultes ni aux intimidations. Alors évidemment, ce type de posture va déstabiliser votre interlocuteur. Donc, il faut garder votre sang-froid jusqu'au bout. Et le fait évidemment de garder votre sang-froid ainsi, ça peut amener votre interlocuteur à doubler sa colère, puisqu'il n'a pas de prise sur vous et que justement il cherche absolument l'inverse. Donc continuez de rester impassible. Dans votre communication, qui doit toujours être basée sur du calme et du respect, il s'agira ensuite de venir fixer des limites claires. Donc on reste toujours poli, tout en indiquant avec une certaine fermeté que le comportement qui est adopté, eh bien, ce comportement vous dérange et que vous ne pouvez pas l'accepter. Donc vous voyez pourquoi ça nécessite quand même de bien se connaître, parce que ça demande de visualiser immédiatement les limites qui sont dépassées et pouvoir rester suffisamment neutre parce que justement nous connaissons parfaitement nos valeurs et nos qualités que... rien ni personne ne pourra venir ébranler. Donc c'est cette connaissance de soi, quelque part, qui vient sauver, en tout cas qui va permettre de garder ce calme et de ne pas rentrer dans ce jeu. S'il s'agit d'un supérieur hiérarchique, là on est dans un autre contexte qui est bien plus compliqué, bien évidemment. Mais c'est pareil, vous restez professionnel et respectueux, hein, le respect on le garde toujours. Toutefois, si vous constatez un comportement qui est dérangeant, eh bien, dans un premier temps, vous pouvez éventuellement demander un rendez-vous en privé pour discuter du problème que vous rencontrez avec ce supérieur, parce que parfois, là je fais une petite parenthèse, discuter peut permettre d'améliorer une relation. Parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas forcément compte de leur comportement. Là, je ne parle pas d'individus malveillants, effectivement, mais il y a des gens qui sont peut-être dans une période compliquée, qui peuvent se montrer désagréables, voire même hostiles, et sans s'en rendre compte. Donc là, bien sûr, ce sont les formes les moins graves, mais lorsqu'un supérieur hiérarchique use volontairement de son pouvoir pour avoir les autres sous sa coupe, là, nous sommes dans un tout autre registre qui est celui de la malveillance. Déjà, il faut impérativement garder toutes les preuves qui concernent le harcèlement, par exemple, ou les insultes, ou les menaces, et parler de ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, donc à quelqu'un qui est extérieur de l'entreprise. Donc ça peut être des amis, pourquoi pas, mais aussi je pense à l'aide d'un psychologue, ou bien encore à un service externe de médiation. Il est impératif, vraiment, d'être accompagné durant ce moment et de ne surtout pas être isolé. Alors après, vous pouvez aussi porter plainte, mais je ne vais pas vous mentir, dans bien des cas, ça risque, je dirais, d'amorcer des répercussions qui seront plutôt négatives. Et même s'il est totalement injuste, j'en ai aussi parfaitement conscience. Il est totalement injuste que parfois ce soit à la personne qui est victime des agissements d'un individu toxique. Eh bien parfois, oui, il faut réfléchir à changer de poste, voire même d'entreprise, si la situation devient totalement insoutenable. Il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit qu'au-delà de tout ça, il faut avant tout préserver votre santé mentale. C'est ça qui est prioritaire. Et s'il s'agit d'un collègue ou d'un manager, signaler le problème au service des ressources humaines, hein, ils peuvent intervenir en qualité de médiateur. Ce sont des contextes qui sont extrêmement violents, ce sont des contextes qui sont extrêmement déroutants et qui peuvent rendre malade, hein, malade psychologiquement, malade émotionnellement, et puis à la fin, malade physiquement. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le comportement de cet individu qui est toxique, de cet individu qui est hostile, il ne faut pas le prendre à titre personnel. En fait, ce sont des attitudes qui reflètent la propre insécurité de l'auteur des faits. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité et ça n'a rien à voir avec vous. Aussi fou que ça puisse paraître, ça n'a en réalité rien à voir avec vous. Donc la base, c'est vraiment d'essayer de garder du sang-froid, de ne pas avoir de réaction émotionnelle, puisque c'est ça que ces personnes recherchent. C'est aussi de ça que ces personnes se nourrissent. Ce qu'ils cherchent, c'est votre déstabilisation.
Tony nous demande comment rester soi-même face à une personne manipulatrice.
Alors déjà, il faut avoir conscience que face à nous, la personne utilise la manipulation. Ça veut dire qu'il faut savoir la reconnaître, et ça, ce n'est pas toujours le cas, et surtout, je dirais, ce n'est pas forcément facile. Un bon manipulateur sait tisser sa toile très lentement, avec une certaine subtilité, ce qui fait qu'on ne le voit pas forcément venir. Ça prend un certain temps. Maintenant, si l'individu est réputé pour avoir ce type de comportement, ou si vous vous apercevez qu'il utilise des stratagèmes de déstabilisation et de mauvaise influence, eh bien, on en revient à ce qui a été dit juste avant. Toujours, vous gardez votre calme, vous ne rentrez pas dans le jeu de cette personne, vous restez ferme sur les limites qui sont les vôtres, et surtout, vous évitez les longues discussions dans lesquelles les manipulateurs aiment bien enfermer leurs cibles. Ça veut dire que vous répondez de manière brève et vous clôturez la conversation, puis ensuite vous vous en allez. On ne perd pas de temps dans de longues discussions qui de toute façon ne vous mèneront nulle part. D'où l'importance, encore une fois, de bien se connaître en gardant à l'esprit qui vous êtes, en gardant à l'esprit vos valeurs et bien sûr vos limites. Un manipulateur, ce qu'il veut avant toute chose, c'est semer le doute dans votre esprit. Il veut que vous vous sentiez en fait en insécurité perpétuellement. Il veut créer la confusion constante dans votre tête. C'est pour ça qu'il faut rester, je dirais, soigneusement accroché à vous-même. Donc questionnez-vous sur ce qui est juste et sur ce que vous voulez vous. Et à partir de là, vous allez beaucoup moins vous soucier de ce que l'autre veut essayer de vous faire croire ou ce qu'il veut essayer de vous faire ressentir. Et si malgré tout ça, la manipulation continue, eh bien, si vous le pouvez, bien évidemment, limitez les interactions avec cette personne, voire même dans les cas les plus compliqués, arrêtez tout contact. Partez. Parfois, ça peut vraiment être une question de survie.
Isabelle nous demande comment expliquer que des témoins acceptent d'assister à des scènes d'humiliation, d'intimidation et de violence verbale en se disant qu'il s'agit de second degré ou d'un jeu.
Il y a plusieurs explications face à ce phénomène. Alors déjà, il y a ceux qui ne voient pas, tout simplement. Et là, je ne parle pas de personnes qui détournent le regard par confort, mais le fait de ne pas voir le mal chez les autres, et donc de passer à côté de tels comportements par pure ignorance, je dirais, voire même une certaine naïveté sur la capacité de certains individus à pouvoir être malveillants. Ensuite, il y a ceux qui voient, mais qui vont prendre tout ça à la légère ou qui vont préférer, si vous voulez, y voir un jeu, voire même en rire eux-mêmes, parce qu'ils veulent en réalité se protéger. Il y a cette volonté chez ces personnes de ne pas être prises pour cible à leur tour, et aussi, je dirais qu'il y a la peur de l'exclusion sociale que ça pourrait entraîner. Il y a également celles et ceux qui vivent de manière très centrée sur eux-mêmes, qui ne veulent ni voir, ni entendre, et encore moins intervenir dans ce type de contexte, parce qu'ils vivent justement dans ce monde intérieur et qu'ils n'ont pas, ou même qu'ils n'ont plus, la sensibilité nécessaire pour réagir. En gros, ils estiment que ce ne sont pas leurs affaires et que chacun se débrouille à sa façon. D'autres aussi sont, je pense, assez incertains sur la manière d'agir. En fait, ils ont peur de faire empirer la situation. Ils se disent que s'ils interviennent, ça va d'une certaine manière faire envenimer les choses. C'est pas forcément ce qu'ils veulent non plus. Donc, ils préfèrent ne pas intervenir, même si eux ont tout à fait conscience de ce qui se passe. Donc, il y a quand même, encore une fois, cette peur, hein, mais il y a aussi cette crainte de faire aggraver les choses pour la victime, et aussi, on ne va pas se mentir, pour eux-mêmes. Voilà, donc on a un mélange de peur, on a un mélange de banalisation, de manque de sensibilité et d'incertitude. C'est pourquoi il est essentiel que les entreprises ouvrent la porte sur une meilleure sensibilisation sur ces questions de comportement hostile et toxique, parce que ça peut réellement permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se passe. Et surtout, de savoir quand est-ce que ça se passe, que justement, là, on ne parle plus d'un jeu, et d'avoir les éléments et les informations nécessaires pour mieux intervenir eux-mêmes, ou en faisant à la limite intervenir des personnes externes, de manière à faire cesser ce type d'acte qui s'avère totalement humiliant et violent pour les victimes.
Wendy se demande s'il existe des profils plus susceptibles d'être choisis comme victimes par quelqu'un de manipulateur et quelles en sont les causes.
J'ai pu voir différents types de profils être la proie d'individus qui étaient véritablement hostiles. Notamment des personnes tout à fait à l'aise dans leur vie, très sûres d'elles, du moins en apparence, et qui n'étaient pas dans ce profil de victime vulnérable comme on pourrait le penser. Donc je dirais que celui ou celle qui veut abuser de son pouvoir peut, à la limite, s'en prendre à n'importe qui. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons tous être la victime de quelqu'un de malveillant. Après, ça va dépendre de plein de choses. Ce qu'il faut voir, c'est quelle durée on va accorder à cette malveillance. Comment on va se sortir de tout ça. Néanmoins, les vrais manipulateurs peuvent avoir tendance à se rapprocher d'une personne qui fait confiance naturellement et qui a une vision des autres où, en fait, elle ne perçoit que le meilleur d'eux. Elle voit les bons côtés des uns et des autres. Donc, elle est plus facilement manipulable et cette personne, ça va lui prendre beaucoup plus de temps pour identifier ce qui se passe. Donc, les manipulateurs vont profiter de cette perception optimiste que la victime a des autres. Ensuite, les manipulateurs se rapprochent beaucoup des personnes qui ont des besoins affectifs élevés. Elles ont besoin d'attention, elles ont besoin d'approbation et elles ont tendance à se rattacher maladivement à l'autre. Donc lui, le manipulateur, va jouer avec tous ses besoins car en fait, il sait que sa victime aura beaucoup de mal à percevoir, mais aussi à résister à son comportement. Les manipulateurs peuvent aussi choisir des personnes qui sont sûres d'elles-mêmes, c'est ce que je vous disais au tout début, mais qui traversent une période compliquée. Ça peut être un divorce, ça peut être un deuil, une dépression. Et à ce moment-là, en fait, la garde est baissée et l'estime peut être blessée provisoirement. Et ça, les manipulateurs perçoivent cette faille et ils vont intervenir un peu comme un sauveur. Ils vont rassurer, ils vont devenir de bons confidents. Et puis, une fois que la confiance est établie, là, ils passent à l'attaque. Les personnes timides ou qui ont une faible estime d'elles-mêmes sont souvent approchées par les vrais manipulateurs parce que justement ils ont cette capacité là aussi de percevoir cette anxiété sociale, ce qui a tendance à rendre la perception des intentions malveillantes beaucoup plus complexe pour les victimes. Donc vous voyez que les manipulateurs cernent très très bien les comportements ou les fêlures, je parlerai plutôt de fêlures, et s'en rapprochent. Après, il faut vraiment comprendre que nous pouvons, encore une fois, tous être la proie d'un manipulateur et surtout, il faut retenir que la manipulation et l'abus de pouvoir eh bien, sont avant tout le résultat d'un comportement nocif géré par le manipulateur lui-même. Mais ce n'est certainement pas la faute de la victime. Ce podcast est maintenant terminé. Donc nous l'avons vu, hein, la connaissance de soi, une bonne estime personnelle, le maintien, je dirais aussi et surtout le maintien de relations équilibrées, ainsi que la possibilité de pouvoir parler et demander de l'aide, eh bien tout ça constitue des atouts qui sont essentiels pour se préserver des manipulateurs et des personnes qui abusent de leur pouvoir. Et pour aller encore plus loin sur ce sujet, vous trouverez dans le descriptif du podcast 3 livres qui traitent de la manipulation et des relations toxiques. Donc le premier livre, Échapper aux manipulateurs, les solutions existent. Deuxième livre, Relations toxiques, comment reconnaître et éviter les relations d'emprise. Et troisième livre, c'est un livre qui est très très vieux, mais qui est toujours d'actualité, je dirais même encore plus que jamais, Psychologie des foules, l'influence et manipulation d'une foule sur notre comportement. Merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. Prenez soin de vous.